Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique. En cette nouvelle année 2020 et comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Médias numériques et industries culturelles au sommaire de cette première émission de l'année. Médias tout d'abord avec mon invité principal jusqu'à 19h30. Je reçois ce soir Étienne Jernel, le directeur du journal Le Point. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Bienvenue à France Culture.
Merci beaucoup.
Avec vous, on évoquera Le Point, son ADN, son projet éditorial, l'état économique du magazine et de la presse magazine en général. Et puis beaucoup de questions sur votre modèle journalistique, votre modèle économique, également vos ambitions pour ce journal majeur de la presse française. Vous êtes prêts ?
Je suis prêt.
Numérique et industrie culturelle. Ensuite, avec nos chroniqueurs OSS de France Culture, Emmanuel Paquette de L'Express. Bonsoir et bonne année.
Bonsoir,
à
bonne
tous
année.
Les deux.
Bonne année.
Avec vous deux, on évoquera les grandes questions numériques et culturelles qui nous attendent pour 2020, de la 5G à la bataille technologique entre la Chine et les États-Unis, de la régulation des GAFA à la guerre du streaming avec l'arrivée programmée de Disney+ pour concurrencer Netflix dès ce printemps en France, sans oublier l'état du cinéma hexagonal. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche, émission réalisée par Émilie Valla avec en régie Jacques Hubert, émission préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata, car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter, mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify et comme toujours sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast. Chaque semaine, en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. . 18h12 sur France Culture, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power en ce début donc d'année 2020, avec justement un tour d'horizon de ce que l'année qui commence nous réserve. Tour d'horizon avec nos chroniqueurs, Emmanuel Paquette de L'Express, OSS de France Culture et notre invité Étienne Jernel, directeur du magazine Le Point. Vive tension, on le sait en ce début d'année, entre les États-Unis et l'Iran, mais sur le front des industries créatives et du soft power, la guerre aura sans doute plutôt lieu en 2020 entre les États-Unis et la Chine. Deux nationalismes technologiques qui s'affrontent quotidiennement et laissent Emmanuel Paquette, l'Europe et son antitrust compter les points et peut-être même voir passer les balles.
Et plutôt passer les balles, puisque effectivement, la Chine a annoncé au mois de décembre qu'elle allait mettre en place un programme qui s'appelle le programme 3-5-2. Alors pourquoi 3-5-2 ? Et c'est simplement pour se défaire des technologies occidentales sur une période de 3 ans. Donc 30% du parc informatique, donc ordinateur et puis logiciel compris, doivent être entièrement modifiés dans les entreprises qui sont liées directement à l'État et dans les agences étatiques. Donc ça fait entre 20 et 30 millions d'ordinateurs à revoir
changer entièrement,
aussi bien du côté du matériel, du hardware, que du logiciel, du software. Donc de grandes modifications qui arrivent, donc 30% la première année, donc en 2020, 50% en 2021 et les 20% restants en 2022, d'où le 3-5-2. Donc ce programme de 3 ans pour avoir une autonomie complète en termes technologiques vis-à-vis des États-Unis.
Autre évolution dans cette guerre, si on peut dire, la création d'une sorte de nouveau Nasdaq, on pourrait dire chinois, qui je crois s'appelle le Star, qui sera à Shanghai pour concurrencer d'une part Hong Kong et permettre surtout, Emmanuel, une double cotation en Chine.
Exactement, alors c'est à l'initiative du président chinois Xi Jinping. L'idée c'est d'éviter de revoir un géant du commerce en ligne du type Alibaba aller se coter directement au Nasdaq américain et rester plutôt sur le territoire national, en l'occurrence Shanghai, qui a lancé donc ce compartiment de sa bourse en fin 2018. 2019, le bilan n'était pas très très bon. Pour 2020, on s'attend en revanche à d'énormes quantités d'entreprises qui viendraient se coter sur ce marché ou avoir une double cotation, c'est-à-dire Hong Kong et Shanghai. Le gouvernement y tient absolument, le président aussi, puisqu'il est personnellement à l'initiative de cette création. On s'attend, alors ça c'est une étude de Deloitte, à ce qu'il y ait 150 entreprises qui se cotent en 2020 sur ce compartiment au niveau de la bourse de Shanghai, contre 80 à la fin 2019. Donc on voit quasiment un doublement du nombre d'entreprises de technologie qui pourraient se coter à Shanghai. Tout ça pour une valorisation de 23 milliards de dollars. Alors c'est encore faible par rapport à ce qu'on connaît aux États-Unis, mais c'est quand même un signe fort de la Chine d'avoir une place forte financière capable de rivaliser avec le Nasdaq américain et le New York Stock Exchange.
On peut un peu résumer ces évolutions autour de la création au fond de plusieurs internets, un internet, comment dire, un peu ouvert, hein, c'est l'internet de Californie, un internet très marchand, c'est Washington, de l'autre côté des États-Unis, un internet autoritaire, là c'est la Chine, et puis nous, le dernier internet, une sorte d'internet un peu bourgeois, et réguler l'Europe. Je ne sais pas si
l'internet
cette cartographie, l'internet en pantoufles qui s'annonce, on verra si tout ça se précise ou éventuellement se confirme.
Pourquoi on en est à cette situation? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises numériques, quelle qu'en soit la nationalité, qui concurrencent des entreprises de l'économie réelle et qui ont 14 points de fiscalité en moins. Ça la réalité. Donc il y a un biais, c'est pas juste. Nous avons, sur la base de la proposition de la Commission européenne, passé une taxe numérique. Elle ne vise pas du tout les acteurs américains. Les entreprises françaises, chinoises, de toutes les nationalités sont touchées. Elle permet de corriger pour une partie d'entre elles cet écart injuste et de répondre à une nécessité.
À l'instant, en conférence de presse du président de la République Emmanuel Macron, en présence, à ses côtés, de Donald Trump. C'était le 3 décembre dernier, lors du sommet de l'OTAN à Londres, le président de la République qui évoquait justement la question de la taxation, la régulation, d'une certaine manière, des GAFA. Autre sujet de préoccupation pour les géants de la tech, qui devrait donc être central en 2020, celui précisément de cette régulation des GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon. On sait que les régulateurs américains s'intéressent à ces questions, à la fois la Federal Trade Commission, la Federal Communication Commission, l'antitrust du fameux Department of Justice, les commissions du Congrès ou encore les procureurs d'une dizaine, voire plus, d'États américains qui ont lancé des procédures, des audits, des enquêtes, sans oublier les candidats démocrates à la présidentielle de novembre prochain qui tous proposent un certain nombre de mesures. Tout ça pourrait contribuer à une forme de sanction, d'évolution du modèle, en tout cas de certains des services des GAFA, Emmanuel Paquette.
Oui, alors effectivement, c'est des attaques qui arrivent un petit peu sur tous les fronts. Au niveau de la FTC, dont vous parliez précédemment, il se trouve que c'est Facebook qui est particulièrement visé par la FTC. L'idée, c'est que la fédération anti-concurrence aimerait ou souhaiterait que Facebook ne lie pas son réseau social avec ses autres services, en l'occurrence Instagram et WhatsApp, et donc enquête sur la possibilité ou non de lier les comptes entre eux et surtout les données qui transitent entre ces trois services, ce qui pourrait donner une force encore plus puissante, un impact encore plus important à Facebook avec cette galaxie en fait d'applications qui aujourd'hui ont plus le vent en poupe que Facebook qui lui-même est en train de perdre quelques abonnés, notamment en Europe.
Sans oublier Messenger aussi qui est lié au
exactement,
à l'ensemble.
Qui est lié à l'ensemble. À côté de ça, effectivement, il y a les États dont vous parliez, une 48 États américains qui là, eux, se penchent sur les problèmes de concurrence entre Facebook et Google contre l'industrie traditionnelle qui vit de la publicité, notamment les médias, mais pas seulement. Et donc l'idée, c'est de voir si aujourd'hui, il n'y a pas un abus de position dominante de ces deux acteurs-là qui, aux États-Unis, doivent à eux deux, doivent avoir à peu près 25% de part de marché, ce qui est quand même assez important face à la télévision et aux médias traditionnels, radio, presse écrite, et de voir s'ils n'abusent pas de ce pouvoir aujourd'hui pour étendre leur hégémonie sur Internet au-delà, notamment en liant des comptes, ce dont on parlait précédemment, par exemple avec Instagram, etc., pour pouvoir avoir une position hégémonique même en dehors du web. Donc aujourd'hui, c'est central au niveau de ces États-là qui sont en train de se pencher sur une régulation éventuelle de Google et de Facebook.
Rappelons d'ailleurs que l'antitrust américain, ce qu'on a souvent oublié, que les Européens ont tendance à dire non, ils ne feront jamais, et même la Cour suprême sont par le passé intervenus activement pour casser les monopoles, que ce soit celui des studios hollywoodiens dans le fameux arrêt Paramount, ont imposé la séparation des activités de production et de diffusion des networks télévisés, notamment dans les années 80, ou ont condamné plus récemment Microsoft pour abus de position dominante, condamnation très dure. Étienne Jernel, une réaction peut-être sur ces questions?
Oui, ce sont des monopoles.
monopoles. Ce sont des monopoles et les monopoles détruisent de la valeur. Ça a été démontré très bien par Frédéric Bastiat, qui a écrit des pages très dures là-dedans. Il parlait de spoliation. Et il le mettait, pour lui, il y avait quatre grands fléaux. Il y avait la théocratie, la guerre, l'esclavage et le monopole. Donc il y avait quand même très fort. Il y a une destruction de valeur considérable et ça va bien au-delà des secteurs de la presse et des médias, puisque de toute façon, ils ont un monopole massif, lourd et irrémédiable dans le domaine des data. Ils en ont plus que tous les autres dans des domaines plus croisés. Et le vrai danger, il est là. Alors l'antitrust américain a été plus courageux par le passé, effectivement, avec AT&T, ou si on remonte plus loin, avec la Standard Oil en 1911. Et c'est intéressant de voir qu'il se réveille. Il serait intéressant aussi que les autorités européennes se réveillent sur ce point. Et ça, c'est un vrai grand test pour la Commission européenne qui vient d'être installée. Ce sera son job principal.
Notamment avec la surpuissante désormais commissaire Margrethe Vestager, qui peut sauver ou pas l'honneur européen.
Et à qui vous aviez
européen.
Consacré une...
Oui, on a considéré que c'était la personnalité de l'année. Et figurez-vous que ça a plutôt bien vendu, ça paraît être risqué hein, quand même de mettre Vestager.
C'est pas très sexy, en général les commissaires, on les connaît.
Mais oui, une commissaire européenne à la une du point, mais ça a vendu. C'est intéressant quand même.
Zoé Svez.
Non, mais effectivement, là, on a fait le tour d'horizon de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un volet politique, effectivement, et clairement, dans les deux sujets qu'on vient d'aborder, aussi bien la question de la 5G que celle de la manière dont on réagit ou pas face à cette régulation des GAFA, on est en Europe et particulièrement en France sur une espèce de position un peu ambiguë sur la bataille de la 5G. On s'est un peu mis en mode Suisse avec ces dispositifs législatifs qui fait que on essaye de pas viser la Chine, mais la Chine est quand même visée. Probablement dans les deux années qui viennent, il va y avoir, je ne sais pas si c'est une obligation, en tout cas une contrainte de voir à quel point on durcit ou pas, à quel point on affirme ou pas une position. Je ne sais pas si la position de l'Europe aujourd'hui est tenable sur cette question de la 5G.
Et même Manuel Paquette sur la position de la Commission européenne, mais aussi la taxe GAFA, par exemple, promise par la France d'Emmanuel Macron, dont il parlait en début de séquence, mais qui a été refusée catégoriquement par Donald Trump.
Oui, alors il y a deux paramètres. Il y a une initiative nationale qui est effectivement cette taxe GAFA. À côté de ça, il y a des travaux de l'OCDE qui sont menés depuis un certain temps pour essayer d'avoir des règles communes entre la plupart des pays de l'OCDE. Et donc, en fait, les deux agendas se percutent. C'est-à-dire que celui de l'OCDE prend beaucoup de temps, parce qu'il faut mettre autour de la table tous les grands pays et s'accorder sur de nouvelles règles, notamment fiscales, entre des pays et des transactions entre deux pays. C'est ce qu'on appelle les prix de transfert qui peuvent arriver entre une filiale française, par exemple, et son siège basé en Irlande.
C'est ce qui bloque depuis toujours sur ces questions-là, de toute façon.
Exactement. Donc, l'idée, c'est de faire des règles communes avec tous ces pays, mais ça prend du temps. Et la France, qui, elle, se pense que ça va prendre trop de temps, veut accélérer, mettre la pression sur l'OCDE en disant bah nous, on met cette taxe en place dès maintenant. Alors c'est totalement politique, c'est pour montrer aussi à la population française que le gouvernement bouge, mais derrière, il y a quand même des États extrêmement puissants, dont les États-Unis, qui eux disent non, nous on se met sur le côté OCDE et on attend que tout le monde s'entende. On veut pas d'initiative nationale, sinon il y en aurait un peu partout dans le monde et ça risquerait de fragmenter, de mettre des nouvelles règles dans chaque pays. Donc une initiative multinationale, mais qui prend beaucoup de temps et qui porte plutôt les intérêts aujourd'hui des GAFA, puisque plus le temps prend, on met de temps à mettre en place ces nouvelles règles, plus les GAFA continuent à participer de l'optimisation fiscale qu'ils ont réussi à mettre en place.
Et à se consolider, du coup.
Exactement.
Troisième sujet de préoccupation en 2020, celui des licornes, ces start-up non encore cotées en bourse mais valorisées à plus d'un milliard de dollars. C'est un peu ça la définition de ce qu'on appelle des licornes. On a vu les difficultés de Uber et de Lyft lors de leur introduction en bourse notamment, l'effondrement aussi de WeWork. Est-ce que c'est la fin de l'argent facile pour les licornes, un tournant dans les transformations et une modification de l'économie de la Silicon Valley? Est-ce que ces difficultés peuvent également affecter les licornes françaises, parmi lesquelles la start-up de covoiture Blablacar, le cloud français OVH, la plateforme de streaming musical Deezer ou encore le service Doctolib Emmanuel Paquette?
Oui, en fait, on est en train de se rendre compte que les startups actuelles, en fait, ces générations de startups sont en train de payer une stratégie qu'elles ont mis en place, c'est-à-dire retarder le plus possible leur entrée en bourse en accumulant du capital et des levées de fonds de plus en plus importantes, en se disant comme ça, on n'a pas à transmettre nos données financières, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'analystes financiers qui viennent les embêter. En revanche, au moment où ils rentrent en bourse, leur valorisation est généralement excessive par rapport à leur modèle économique. Et du coup, il y a une rectification qui est faite automatiquement sur les marchés au moment où on découvre les chiffres d'affaires réels de ces sociétés. Et surtout, les débordements qu'il peut y avoir, comme on a pu le voir avec WeWork, où le PDG s'était un petit peu servi sur la bête pour le coup, ce qui a entraîné son licenciement. Et aujourd'hui, une remise à plat complète de la société qui a dû même faire marche arrière sur son introduction en bourse. Donc le problème aujourd'hui des startups, c'est qu'elles font trop appel à des liquidités du marché parce qu'il y en a beaucoup avant d'aller en bourse et attendent de plus en plus longtemps. Donc ce ne sont quasiment plus des startups mais des vraies entreprises qui font quasiment des milliards de chiffres d'affaires, mais généralement des pertes en face aussi. Et ça, ils le cachent jusqu'au dernier moment à la communauté et c'est ce qui pose problème aujourd'hui.
Etienne Jernel, patron d'une licorne française, à Le Point.
J'espère, on n'est pas tout à fait au milliard, mais j'espère que ça viendra un jour. Non, je vous recommande sur le sujet, le livre de Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, et qui s'appelle Blitzscaling. Blitzscaling, ça veut dire la croissance éclair. Et en fait, ça traduit bien la violence et la difficulté de ce secteur. Alors, ce qu'explique Reid Hoffman, tout simplement, c'est que pour atteindre un marché, pour posséder un marché, the prize, il dit ça, le prix et la récompense, il faut aller très très vite, quitte à se comporter n'importe comment d'ailleurs, mais parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra faire des bénéfices et pas avant. Et c'est là où on voit toute la difficulté de ces entreprises-là qui ont besoin de grandir à une vitesse stupéfiante pour arriver enfin au niveau de rentabilité. Je mets de côté WeWork parce que franchement c'était un château de cartes et ça c'est ils ont quand même, il y a eu quelques abus on va dire, mais pour les autres c'est d'une extrême difficulté et c'est à cela qu'on mesure d'ailleurs la violence de ce secteur.
Signalons aussi parmi d'autres startups françaises qui sont pas loin des licornes, futures ou peut-être, on ne sait pas trop, qu'il faut en tout cas garder à l'œil Open Classroom, Vestiaire Collective, E-Insect, Ledger, Sixfox, Mano Mano, Back Market, Talentsot, Shift Technology, Klaxoon, Vlog, Aircall, Shadow. Je vous les ai cités parce que c'est des startups qu'on connaît peu.
Et pourtant, qu'il n'y en a pas une seule qui a un nom français à part Vestiaire Collective.
Voilà, mais elles sont malgré
très
tout.
Impressionnant. On ne pouvait pas se douter qu'elles
étaient françaises. Et encore, Vestiaire Collective, sinon.
Collective, voilà. Sinon, voilà, collective.
C'est même écrit. Avec au féminin, à mode anglaise. Bref, on essaiera de les suivre et de s'intéresser à ces startups-là également. Autre sujet pour 2020, celui de l'arrivée de la 5G, on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, la cinquième génération de standards de télécommunications mobiles. Et là, c'est un nouveau monde qui s'annonce, où comment dire, le smartphone et des millions d'objets du quotidien se parleront, ils vont se mettre à discuter entre eux avec de meilleurs débits, une extrême réactivité en perspective, l'industrie 4.0, la télémédecine, la ville connectée, l'internet des objets enfin réels, le pilotage des voitures autonomes et le tout connecté. C'est Emmanuel Paquette, une sorte de une nouvelle accélération de nos vies.
Oui, une nouvelle accélération, mais qui passe par les opérateurs par, d'une part, acheter des licences pour pouvoir commencer à déployer cette nouvelle technologie. Il se trouve qu'en France, le gouvernement a pris un peu une initiative toujours médiane, le « en même temps » d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire en même temps vendre ses fréquences aux enchères et essayer d'en retirer un maximum d'argent. Et en même temps, permettre son déploiement rapide un peu partout sur le territoire français pour essayer de pousser le déploiement de cette technologie. D'autres pays ont fait des choix inverses, ont quasiment donné les fréquences, mais en contrepartie ont demandé un déploiement extrêmement rapide de cette technologie. D'autres pays ont fait monter les enchères à des prix très élevés, notamment l'Allemagne et l'Italie, mais les contraintes de déploiement sont beaucoup plus faibles qu'elles ne le sont en France. Donc la France estime avoir pris une position médiane, c'est pas l'avis forcément des opérateurs qui trouvent que on sait pas jusqu'où vont monter les enchères, donc il y a un risque pour eux qu'en fait il y ait et un prix des enchères élevé et un déploiement rapide à faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont pas extrêmement contents, la plupart d'entre eux. Ils attendent en fait le mois de février pour déposer, jusqu'au mois de février pour déposer leur candidature et candidater donc à des blocs de fréquences à prix fixe. Donc ça, c'est contraint, on connaît le prix, c'est 350 millions pour 50 MHz. Voilà, et puis après,
pour ce qui reste,
il y aura des blocs de 10 MHz. Donc il y en aura 11 vendus à un prix d'enchère avec un prix de départ de 70 millions. Pardon. Et ça pourra monter. Alors là, on ne sait pas jusqu'à combien les prix vont pouvoir évoluer. Ça va être
Orange,
fonction de la guerre.
SFR et Bouygues notamment.
Alors tout ça est régi par la théorie des jeux.
Et donc,
ils mettent des polytechniciens dans des petites salles et ils travaillent sur en fait tous les schémas possibles.
En mode hackathon, ils ne peuvent pas sortir. Tant qu'ils n'ont pas trouvé la
solution.
Surtout,
ils font attention de ne pas être espionnés par les concurrents. Ouais.
Des débits, on parle de débits jusqu'à 10 fois plus rapides que la 4G quand même, dans certains cas. Ça va aider notamment la voiture autonome, sans conducteur. C'est une fiction qui devrait devenir réalité, vous pensez, dans la décennie 2020?
Alors ça, c'est compliqué. C'est une question compliquée à laquelle on
pour répondre,
on peut répondre. Parce que d'un côté, il y a l'industrie connectée. Donc là, c'est assez facile. On voit les applications qui peuvent arriver. C'est notamment mesurer à distance la consommation énergétique d'un foyer, ce qui existe déjà aujourd'hui avec le Linky, par exemple. Mais on peut pousser ça encore plus loin, c'est-à-dire voir dans le réseau s'il y a à un moment donné un problème dans le réseau énergétique où il faut changer, par exemple, un élément du réseau. Ça, avec des objets connectés sur le réseau, on pourrait être alerté en temps réel de ce qui s'y passe. Donc ça, c'est un des éléments éventuels de la 5G. Pour la voiture connectée, c'est plus compliqué parce que aujourd'hui, on n'arrive pas encore à avoir une voiture connectée qui fonctionne en zone urbaine de manière optimum. Et surtout, aujourd'hui, les tests qui sont faits avec la voiture connectée, ce sont dans des villes généralement où il fait toujours beau. Donc il n'y a pas de glace, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pluie. Donc on voit que l'intelligence artificielle de ces voitures-là est relativement limitée dans des environnements relativement simples. Après, il va falloir aussi une évolution de l'environnement législatif pour autoriser ce type de technologie à se déployer, et ça, on n'y est pas encore, notamment en France.
La guerre du streaming sera déclarée en 2020 avec, face à Netflix, des studios qui lancent Disney+, par exemple, disponible en France à partir du 31 mars, HBO Max qui arrive également, Paramount CBS qui devrait également lancer son offre l'automne prochain, c'est l'information France Culture, tout comme Universal sans doute, et c'est bien sûr sans compter sans Apple TV, Amazon Prime, OCS d'Orange et peut-être même une offre Warner. Bref, une guerre inévitable, Emmanuel Paquette.
Oui, alors une guerre, alors on ne sait pas si ça va être une guerre ou simplement des gens qui vont arrêter de s'abonner à la télévision payante traditionnelle et basculer sur ces offres-là en accumulant 2, 3, 4 ou 5 abonnements différents.
Et éventuellement en se désabonnant tout aussi rapidement une fois la série télévisée vue.
Exactement, là il y a eu une étude alors qui semble relativement faible pour le coup, mais disons qu'après le lancement de Disney+, et notamment la série Le Mandalorian, qui est une série tirée de Star Wars qui vient de se terminer, puisque chaque épisode a été diffusé tous les jeudis, vendredis, il y aurait maintenant des désabonnements de Disney+, parce que le reste n'intéresse pas nécessairement les gens qui sont abonnés, donc ça c'est à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, Disney aurait plus de 24 millions d'abonnés quasiment en un mois et demi, ce qui est vraiment énorme pour le coup, sur le seul territoire américain, enfin États-Unis,
oui,
Canada.
100 millions aussi d'abonnés sur Netflix, rien qu'aux États-Unis.
Enfin, 60 millions aux États-Unis et 90 millions, en gros, un peu plus de 90 millions hors des États-Unis. Donc on voit aujourd'hui, de toute façon, la croissance de Netflix se fait en dehors du marché américain. C'est là où ils gagnent le plus d'abonnés. C'est là aussi, ils ont une possibilité d'augmenter le plus les prix, parce qu'aux États-Unis, les prix ont déjà beaucoup augmenté par rapport au reste du monde. Pour la première fois, Netflix a diffusé les différentiels de prix, par exemple, entre un abonné américain, un abonné en Amérique du Sud et un abonné en Europe. Et on voit qu'il peut y avoir des différences entre 10-20% d'une zone à l'autre. Donc on voit qu'il y a des possibilités d'augmentation de prix en dehors des États-Unis, un peu moins aux États-Unis. Et la vraie question, c'est de savoir ce que les gens vont quitter Netflix pour s'abonner à Disney. Une étude d'un cabinet d'analystes là, qui vient de tomber au mois de décembre, estime qu'il pourrait y avoir 4 millions de personnes qui quitteraient Netflix en 2020 pour aller sur Disney. Quand on parle à Reed Hastings, le PDG de la société, lui pense que non, ça n'arrivera pas. Il pense qu'en fait, le mouvement est beaucoup plus profond. C'est des gens qui quittent la télévision traditionnelle pour venir sur le streaming et que du coup, les vrais perdants
seront les câbles opérateurs.
Les câbles opérateurs et les chaînes traditionnelles, en France, TF1, M6.
Voilà, parce que là, on parle quand même d'un environnement très américain. Donc, il faut rappeler qu'effectivement, HBO Max, ça concerne pour le moment que les États-Unis. Pareil pour Paramount CBS.
HBO Max, ils sont en Europe.
Ils sont en Europe, oui, ils sont là, mais ils vont faire en France, avec l'intégralité des catalogues, ça va être un peu plus long parce qu'il faut aller récupérer des choses qui sont déjà ailleurs. Netflix, alors du coup, la question française, elle est plutôt de savoir si ça se fera au détriment des télévisions traditionnelles, parce que les câbles opérateurs, à l'exception notable de Canal qui s'est donc allié à Disney+, on n'est pas sur des questions de ce type-là. On a quand même un autre plateforme en France qui doit voir le jour, qui s'appelle Salto, qui est donc
C'est triple Salto,
donc on est sur une union des forces du divertissement.
Ça va faire la une du point, je sens, Salto.
De France Télévisions, TF1, M6, qui ont décidé, c'est très intéressant, parce qu'ils avaient annoncé 135 millions d'investissements pour les contenus exclusifs de cette plateforme, donc en plus de ce qu'ils proposent déjà, donc des divertissements qui auront déjà été diffusés sur la télé traditionnelle. Et finalement, au vu de tout ce qui se passe, ils ont décidé de doubler cette mise. Et c'est 250 millions sur 3 ans face aux 13 milliards par an de Netflix. Voilà, je vous laisse faire un petit peu le calcul. Et puis la vraie question, il y en a deux déjà, c'est effectivement qui s'abonnera à Salto, à cette offre-là au regard de tout ce qu'on vient de dire. Et puis, est-ce que les producteurs, quand aujourd'hui ils vont vers des chaînes de télévision en proposant des contenus de divertissement, alors là on peut prendre par exemple l'exemple du Bazar de la Charité, c'est cette espèce d'énorme fiction de TF1 qui reprend cet épisode de manière plus ou moins fidèle d'ailleurs, de l'incendie du Bazar de la Charité. Ça a été un des plus gros investissements en matière de téléfilms de TF1 pour cette année, et une semaine après ses diffusions sur TF1, la Bazar de la Charité est arrivée sur Netflix. Vous pouvez le regarder aujourd'hui sur Netflix. Et la question, c'est est-ce que les producteurs qui aujourd'hui vendent leur production à TF1, à M6, seront d'accord pour céder leurs droits à Salto et pas à Netflix? Donc il y a des grosses questions comme ça. Est-ce que Salto à terme va s'allier à des éléments, ou des, on va dire des opérateurs télécoms, du Free, du Canal? Ça peut être une deuxième version. Tout ça reste un petit peu la grande énigme. Et effectivement, cette fameuse question de la déshérence ou pas de la télévision française. Donc là, on est sur des chiffres pour l'année 2019 en termes d'audience qui sont plutôt très inquiétants pour la télévision traditionnelle, avec en plus la fermeture annoncée, on l'a dit, de France 4 et de France O. Et cette grande question, est-ce que les gens qui regardent aujourd'hui France 4, et ils sont quelques millions quand même, iront sur la plateforme jeunesse entièrement en ligne préparée par France Télévisions? C'est une des vraies questions qui se posent. Donc c'est une année 2020 qui va être intéressante aussi pour la France de ce point de vue-là.
À travers aussi une nouvelle loi audiovisuelle, et Zoé Sfès, la transformation du CSA en arbitre, comment dire, un peu général des contenus, y compris numérique.
Mais effectivement, l'ARCOM. Alors, il faut quand même parler de cette loi audiovisuelle qui est très importante et qui prend beaucoup de retard. Donc cette loi audiovisuelle, on en a beaucoup parlé ici sur Soft Power, donc c'est parmi les choses qui sont au programme, il y a notamment la création de France Média, donc le rassemblement de France Télévisions, de Radio France et d'autres acteurs, mais il y a aussi toute une foule d'autres mesures extrêmement importantes, extrêmement débattues, et le gouvernement, elle a été présentée en Conseil des ministres en décembre dernier, le gouvernement avait promis que cette loi passerait devant le Parlement en février. Et finalement, avec la grève, le calendrier de la réforme des retraites, on est en train de comprendre qu'elle va plutôt passer en avril, mais qu'il va falloir agir vite. Donc le gouvernement a promis des décrets sur certaines mesures qui étaient très attendues. Parmi les mesures très attendues, il y a l'idée de la pub géolocalisée. Ça, la publicité l'attend beaucoup. Donc l'idée qu'effectivement vous puissiez avoir une pub qui est près de chez vous quand vous êtes à Bordeaux. La pub pour
notamment
la cinéma,
grâce au box. C'est grâce au box, ça va permettre évidemment que, par exemple, on pourra regarder son film et voir une publicité différente si on est un homme ou une femme, si on habite Paris ou Saint-Étienne-les-Orgues, ou si on est un cadre supérieur ou un gilet jaune. Voilà.
Tout à chacun fait. Verra. On dit géolocalisé, mais en fait c'est ciblé, c'est ça, voilà, le vrai.
C'est CSP.
Ils ont gardé
localisé.
Le mot géolocalisé qui rassure un peu plus les gens. Il y a un autre gros débat qui est la publicité pour le cinéma à la télévision. Vous savez que ça fait partie des choses que les chaînes réclament depuis longtemps. Parmi les questions débattues, c'est que les chaînes seraient obligées, pour une pub qu'elles diffuseraient pour un grand film de studio américain de type Avenger, elles seraient obligées de diffuser aussi une pub pour un film d'auteur français. Là-dessus, elles ne sont pas d'accord. Or là, pour le coup, ça risque de ne pas être débattu et de passer directement en décret. Et puis, il y a aussi la question qui passera en décret des jours interdits pour le cinéma à la télévision. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des jours où on ne peut pas diffuser le film.
Le vendredi et le samedi.
Ça va probablement être réglé par décret d'ici avril. Mais en avril reste, vous l'avez dit, deux questions de taille. La question de la holding France Média et surtout cette création de l'ARCOM. On en a parlé ici avec celui qui aujourd'hui dirige le CSA, Roch-Olivier Maistre. Et donc, cette superpuissance de régulation qui aurait vocation à réguler, y compris sur le numérique, cette fusion donc de CSA et d'Adopi. Et puis, il y a enfin la dernière grande question, la question de la participation de tous les acteurs qu'on vient de citer, c'est-à-dire les acteurs de la SVOD, qui devraient participer, ça fait partie du projet de loi, contribuer au financement de la production française à hauteur de 15% du chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France. Et ça, autant vous dire que les producteurs et le cinéma, en tout cas le métier, attend beaucoup de cette mesure.
Alors on a beaucoup de chance ce soir, on a Étienne Jernel, directeur du Point, le grand, comment dire, le grand défenseur, le grand chantre du CSA.
Oui, moi je le dis tout souvent, hein, je suis pour la suppression du CSA, et ça me semble d'autant plus urgent qu'il y a cette fusion avec la 2P pour devenir l'ARCOM, qui en fait un monstre. D'abord, le CSA n'a plus aucune raison d'être. Il faut dire les choses très clairement. Le CSA ne sert plus à rien. Il avait une utilité dans un monde hertzien, hein, où il y avait un domaine public rare, c'est l'expression de la loi de 86, qu'il fallait partager. Et en contrepartie, disons, de l'attribution de fréquences, les ondes, hein, qui étaient rares, l'autorité publique régulait. Aujourd'hui, à peu près tout passe par la fibre, par la DSL. Il n'y a plus de limite physique. Vous savez, c'est comme les bistrots, hein, les bistrots qui s'étendent leur terrasse sur les trottoirs. Mais c'est exactement le même principe. Aujourd'hui, le CSA ne devrait plus exister. Et depuis longtemps, et Olivier Schramek, le prédécesseur de Roquelier Maistre, était là-dessus tout le temps. Le CSA a voulu étendre ses pouvoirs sur Internet. Et il a eu de la chance, Emmanuel Macron a exaucé ses voeux.
Notamment la question des fake news,
la loi Avia.
La loi Avia sur la haine en ligne.
Bien sûr, qui procède alors d'abord d'une intention qui est louable. On est tous d'accord que la haine en ligne, c'est pas bien. Néanmoins, ça n'est rien d'autre que la privatisation de la censure, la privatisation de la justice.
C'est ça que vous craignez, en fait, c'est un problème de liberté.
Bien sûr. En fait, c'est un problème majeur de liberté. Écoutez, il y a une loi qui est une loi de 1881, qui est une formidable loi. C'est la justice qui dit quelles sont les limites apportées à la liberté d'expression. Enfin, c'est la loi et c'est appliqué par la justice, avec toutes les garanties que cela suppose. Le temps, le délai, les droits de la défense.
Oui, mais sur Internet,
ça va beaucoup trop vite,
il y a trop d'attaques.
Alors, pourquoi est-ce que personne n'a dit, mais attendez, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas renforcer les moyens de la justice? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Je suis désolé, mais quand l'administration est en charge de la censure et de la limitation de la liberté d'expression, il y a un problème majeur et moi, je la refuse.
Oui, mais pour l'instant, c'est Google et Facebook qui ont cette charge. Donc c'est le business qui s'autorégule.
En fait, il y a une espèce d'accord tacite, si vous voulez. Google et Facebook, et en particulier Facebook, ont eu beaucoup de problèmes parce que, effectivement, il y a des trucs abominables qui circulent sur leur réseau. Voilà. Et maintenant, eux, ils veulent continuer à gagner de l'argent. Et donc, ils disent aux autorités nationales, et Zuckerberg, que j'ai vu il y a 6 mois, 8 mois à Paris, disait ça. Il disait, mais finalement, on veut bien coopérer. Et il se trouve forcément des autorités de régulation dont l'hubris n'a aucune limite et qui disent, ah bah, tant mieux, moi je veux bien. Et voilà, et on va se brancher sur vous. Et on donne aux États une capacité technologique dont ils n'auraient jamais pu rêver pour aller contrôler les contenus. Je suis désolé, c'est pas son rôle.
Mais là, vous avez dit effectivement qu'il y avait cette problématique hertzienne de la régulation. On l'a vu, le problème de la régulation, c'est déplacé. Donc vous dites la justice, mais la justice en même temps n'a pas les moyens, n'a pas la question de la temporalité. Si ce n'est pas les États, qui le fait?
La justice est là pour ça. Et la justice, la loi de 1880 est très claire.
Mais si vous êtes attaqué par 2000 personnes à la fois, ce qui arrive souvent désormais...
Posons-nous la question.
Une fois en attaquer 2000, c'est impossible, ça coûte extrêmement cher. Les procédures vont durer deux ans.
Posons-nous la question de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer le système. Posons-nous cette question-là. Moi, je pense que de toute façon, on n'aura pas beaucoup d'autres choix, ça c'est un point de vue personnel, que d'aller vers un système de free speech total. Je pense que ça va être très très difficile de faire autrement parce qu'on ne pourra pas effectivement contrôler et que quand l'État contrôle, et puis qui contrôle, qui a la légitimité pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est légal, ça ne l'est pas. D'abord, le bien, pas bien, pardonnez-moi, n'existe pas. Ce qui compte, c'est ce qui est légal ou pas légal.
Non, mais là en l'occurrence, c'est vrai, pas vrai, c'est plutôt ça la question des fake news.
Qui est habilité à dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Qui peut le faire et qui prétend avoir la compétence pour le faire? Il faut être vraiment bien prétentieux pour penser que surtout dans un délai très court, on a la capacité de le faire. Même la justice ne le fait pas.
Étienne Jernel, point de vue du directeur du Point, on avait reçu Roch-Olivier Maistre, le patron du CSA.
Oui,
on a donc deux points de vue.
Il est très sympathique et très agréable. Je l'ai écouté. Mais très franchement, s'il va jusqu'au bout, hein, si c'est un vrai libéral pour la liberté d'expression, il devrait aller jusqu'au bout et autodissoudre ce CSA avant qu'il ne nous étouffe.
Il va se faire harakiri. La prévision 2020 d'Étienne Jernel sur France Culture. On termine ces prévisions 2020 par un point sur le cinéma français, point culture. Zoé Sfez, Emmanuel Paquette, un secteur du cinéma qui s'est très bien porté en France en 2019, mais pas étrangement pour le cinéma français, Emmanuel.
Oui, effectivement, c'est une année quasi record, hein, 213 millions d'entrées. Le record, c'était en 1966, c'était 234 millions d'entrées. Alors, il y avait une population française qui était quand même moindre que celle d'aujourd'hui, mais tout de même, ça reste quand même une bonne année. Alors, effectivement, pas pour les films français qui sont en recul de 5,7%.
À 37%, je crois, à peu près.
Voilà, c'est 35% de part de marché.
Entre 39 donc, l'année dernière.
Entre 39, effectivement, en 2018.
Et contre 40 et quelques, parfois 50, il y a une dizaine d'années. Donc
exactement. Et c'est surtout les films américains qui en profitent, avec une croissance de 32% sur l'année 2019 et une part de marché explosive de 55%. Alors, il est fort à parier que dans ces 55%...
Notamment avec les records incroyables de Disney avec 6 titres du groupe qui ont dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde.
Et ça,
notamment
c'est avant
en
Star
France.
Wars, en plus. Ouais. Avant le Star Wars, puisque les entrées de Star Wars ne sont pas encore comptabilisés dans ces chiffres du CNC qui ne pouvaient pas encore les prendre.
Zoé Cerise.
Non, effectivement. Alors, il y a quand même, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Deux ou trois? Je ne sais
deux.
Plus.
Le deux.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, pardon. Qui est en quatrième position, je crois, des films les plus vus. Effectivement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on reste quand même le pays avec de plus loin le plus gros marché d'Europe. Ça fait partie des informations qui se confirment. On reste attrayant. La question, en général, le CSA publie un peu plus tard le profil des gens qui vont au cinéma. Donc on sait qu'effectivement, les jeunes, en fait, ceux qu'on a perdus, notamment sur les films français, c'est les jeunes qui vont au cinéma, mais uniquement sur des grands événements de type Avengers, pour vivre un espèce de moment collectif, mais uniquement là-dessus. Faut noter aussi qu'en 2020, puisqu'on parle de l'année qui vient, il va y avoir, je pense, une plus grande précision de la politique de Dominique Boutonnat, qui a pris la tête du CNC, qui a envie d'appliquer de nouvelles méthodes, notamment de nouvelles philosophies à la manière dont on finance le cinéma français.
Qui défend un cinéma populaire aussi.
Qui défend un cinéma, en tout cas, qui du winner takes it all, c'est-à-dire qui défend le fait d'aider des gros films déjà gros pour qu'ils puissent être à la même hauteur que des films Disney. Et probablement au détriment d'un système un peu plus préservateur du cinéma d'auteur comme on le vit en Europe, et qui en même temps va devoir faire face à un plan d'économie, parce que ça on le sait peu, on en parle peu, mais le CNC a 20 millions d'économies à faire, je crois, en 2 ans. Et donc, en décembre, ont été actés déjà 6% de baisse sur toutes les aides qu'accorde le CNC. Ça, probablement, ça se sentira. La question, c'est à quel niveau, où et dans quel type de film cibler.
Voilà, alors des auteurs, je pense à des points de vue diffusés ici ou là, notamment dans Le Monde, annoncent l'agonie du cinéma ou le début, il faut écrire la nécrologie du cinéma. On peut rester beaucoup plus optimiste. Souvent, c'est juste un changement d'époque. Il faut comprendre ce qui se passe et le cinéma, on n'a aucune inquiétude, ne va pas mourir. Dans les autres sujets à suivre pour 2020, on pourrait parler de la question de l'intelligence artificielle, la montée en puissance des assistants personnels, les écrans pliables pour les smartphones, mais aussi pour les grands écrans de télé à domicile. Toutes ces questions, on y reviendra au cours de l'année dans cette émission Soft Power. À suivre ce soir, je reçois dans quelques instants Étienne Jernel, le directeur du Point, mon invité ce soir. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un extrait du morceau actuellement viral, d'ailleurs sur Internet et les réseaux sociaux et les plateformes. Ce morceau, il a serré le poing du rappeur iranien Ishkas, ça veut dire, paraît-il, personne, en français, nobody. Titre très politique, en iranien, en farsi, en l'occurrence, c'est Datasho Moshkardé qui décrit ce morceau. Il a serré le poing et décrit la répression de la jeunesse iranienne lors du récent mouvement de contestation. Le journaliste Ghazal Golshiri décrit dans Le Monde ce week-end ce morceau comme un hymne à la contestation, où le rappeur dénonce la pauvreté, le népotisme, la corruption des dirigeants iraniens et leur politique d'ingérence au Moyen-Orient. L'Iran est, selon ce rappeur, un pays colonisé, je cite, par les autorités religieuses qui ne veulent guère des citoyens, mais des esclaves. La pochette, le visuel du morceau, il a serré les poings et recouvert des noms inscrits en rouge sur fond noir des victimes de la répression.
دستاشو مشت کرده همه دار ندار بردن، یه کویر مونده فقط و لب تشنه. همه آرزوهاشو کشتن ولی جنازه تحویل نگرفته. حتی بدون تحریم هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه. انگار وطنش مستعمره است، پشیزی واسه ملت خرج نمیشه. صبح و شب سگ دو میزنه، آخر ماه باید قرض بگیره. تو خیابون واستاده که یه جوری حقشو پس بگیره. اینا شهروند نمیخوان، برده میخوان. از تو سلول صدا زجه میاد و میخواد چند دهه قتل و غارت تموم شه. چندین سال اشکشو در آوردن و دیگه اشکی واسه گاز اشکاور نمونده. تبعیض داره بیداد میکنه و میگن تو حق مردم اجحافی نی. همه رانتی، تو داشتن تخصص اصراری نی. همه کشور و قفس کشیدن و میگن اینجا هیچکی زندانی نی. همه رو لخ کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نی.
فرانس کلتور 18h48.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Dans Soft Power, en direct sur France Culture ce soir, je reçois Étienne Jernel, le directeur du Point. Rebonsoir.
Rebonsoir.
J'aimerais ouvrir cet entretien par une remarque, disons, un peu générationnelle. Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, tout récemment, pour préparer cette émission, je m'attendais en ouvrant la porte. C'était, je crois, au dernier étage du journal Le Point, sur la terrasse magnifique, au bar. Je m'attendais à rencontrer, comment dire, une sorte de Claude Imbert ou de France-Olivier Gisbert. Et puis, je tombe sur vous. Donc dans cette terrasse, à un moment je me dis, c'est l'assistant d'Étienne Jernel. Non, c'était Étienne Jernel. La petite quarantaine, un peu mi-hussard, mi-anarchiste de droite.
Je suis plus jeune que mon âge.
La petite, j'ai dit quarantaine. Un brin cynique, un brin voyou, un gros fêtard, un amoureux du vin. Une sorte de Frédéric Becbédé qui serait tombé amoureux d'Alexandre Solzhenitsyn, à moins que ce soit l'inverse. Bref, on vous imagine plus à Technicart ou à Russia Today qu'au Point. Alors, il paraît qu'il y a dans votre bureau, que je n'ai pas visité, une boule à facettes, comme dans les boîtes de nuit disco. Pourquoi, chez vous, tant de facettes ?
Ah, je sais pas, la vie est comme ça, la vie est compliquée. Vous savez, je dis souvent, parce que je le pense très profondément, que la cohérence est l'ennemi de l'intelligence. On est des personnages divers. Moi, j'ai un petit côté russe, ça c'est vrai, j'ai un côté togolais.
Russophile même.
Oui, je suis russophile.
Votre portrait justement de Solzhenitsyn avait été fort remarqué, notamment par François-Olivier Gisbert, qui vous Absolument. A adoré ce jour-là, paraît-il.
Que j'avais écrit en une nuit, comme je pouvais en tout cas... dans l'état où j'étais, parce que ça a été un peu rapide. Je suis un peu togolais également, parce que j'ai grandi au Togo, et un peu parisien, un peu berrichon, on est tous un peu comme ça. Et la boule à facettes, malheureusement, je ne l'ai plus, je l'ai perdue dans le déménagement, quand on a changé de locaux. Mais il faut peut-être que je rachète une autre.
Vous êtes l'héritier de Claude Imbert, ou plutôt de François-Olivier Gisbert, et qu'est-ce qui les distingue, ou au fond, qu'est-ce qui vous rattache à eux ?
Les deux, en général. Claude est le fondateur du Point. L'irrespect professionnel. Hein,
c'était le titre de...
C'était dans son premier édito que j'ai avec moi et que j'ai toujours avec moi. J'en ai toujours un exemplaire dans mon bureau, j'en ai chez moi. Le premier édito du Point, le 25 septembre 1972, où il parlait de ça. Il expliquait ce qu'allait être le Point. Il parlait de ça, de l'irrespect professionnel. C'est formidable comme expression. Irrespect, parce qu'on n'est pas là pour respecter et pour, comment dire, courber les chines devant les gens qui sont plus puissants que nous. Et puis professionnel, parce qu'il faut faire ça sans méchanceté, dit-il. Voilà, sans méchanceté.
Mais ça serait ça un peu l'ADN du Point, selon vous,
oui.
C'est-à-dire un peu ce côté être dans la contradiction, pas vraiment de ligne, pas vraiment d'ADN, un peu situationniste finalement, surprendre.
Oui, Claude disait dans ce premier édito qu'on devait être le journal de la raison. Alors il disait comme ça, c'est une vieille lune, mais qui nous éclaire malgré tout la nuit. Et il parlait beaucoup de cette question de l'éloge de la folie qu'on faisait partout. Le Point, c'est son rôle, c'est de dire l'inverse, c'est de douter. Hein, le luxe du doute méthodique, disait-il. C'est ça notre mission, c'est à ça qu'on sert. On est un journal qui revendique l'héritage de Montesquieu, de Tocqueville et plus récemment de Raymond. C'est ça qu'on essaye de faire.
Raymond Aron, que Claude Imbert laisse partir à l'Express.
Alors, c'est une tragédie cette histoire, parce que Claude voulait absolument avoir Raymond Aron au Point, et puis pour des raisons qui sont assez compliquées, il n'est pas venu au Point. Il est venu à l'Express, d'ailleurs. Il est allé à l'Express.
Et à la place, il a Jean-François Revel.
Il a pris Jean-François Revel, qui d'ailleurs, d'un point de vue journalistique, était quand même pas mal, parce que ça remuait avec Revel. Hein. On s'en souvenait à chaque fois.
Puis c'est on formidable. Buvait et on mangeait. Hein.
Oui, quel personnage formidable. C'est le Pantagruel du journalisme. Extraordinaire, d'une culture immense, et puis, en même temps, d'un savoir-vivre incroyable.
En même temps, la droite.
Ah, ça, c'est vous qui le dites.
Non mais pour Revel, c'est clair.
Ouais, Revel un peu plus que d'autres. Mais enfin, le journal n'est pas un journal de droite, il n'est pas un journal de gauche. Il se revendique de cet héritage aronien. Voilà, anticonformiste. Alors vous me direz, le problème de l'anticonformisme, et Claude disait ça, hein, c'est que...
Généralement, c'est de droite.
Là, tout le monde se dit anticonformiste, et puis tout le monde finit par penser la même chose. Je n'en sais rien. Mais oui, bien sûr qu'il faut avoir cette idée-là, de ne pas avoir peur des modes et de ne pas avoir peur de ses congénères. Le principal défaut, à mon avis, de la presse en France, c'est son panurgisme. Les journalistes ont tendance à penser tous que la même chose, à vivre ensemble dans les mêmes quartiers, à raisonner de la même manière, et que le courage et l'indépendance consistent également à se différencier de ses camarades journalistes.
Quand on dit la droite, c'est La Nation, parfois le religieux, la tradition, comment dire, l'ancrage aussi, le terroir, c'est des thèmes qui vous parlent?
Écoutez, nous, par tradition, on est plutôt un journal libéral. Hein. J'ai cité Montesquieu, Aron, on pourrait citer Benjamin Constant également. C'est plutôt notre manière de penser. On est un journal qui se revendique de l'héritage de Lumière. On n'est pas les seuls, évidemment, d'autres peuvent le faire. On n'est pas un journal conservateur, on n'est pas un journal socialiste. Voilà, évidemment, si vous regardez l'historique des prises de position du Point Audien, bah oui, on a été contre les 35 heures, par exemple, hein, à la différence d'un certain nombre de journaux de gauche. On n'a pas été, à l'opposé de journaux de droite, à opposer au mariage pour tous, par exemple. Ça situe un petit peu l'idée de ce que c'est que le Point.
En même temps, vous, et vous aussi à titre personnel, vous êtes très fasciné par la Silicon Valley, en revanche très hostile, en tout cas très terrorisé même par l'islamisme. On a deux facettes très fortes, là pour le coup, du Point aujourd'hui.
Écoutez, on peut être passionné par les nouvelles technologies et ce qu'elles nous apportent et les risques qu'elles nous font encourir également. Et en même temps, comme dirait l'autre, très inquiet effectivement de l'islamisme et de sa progression. On publie cette semaine d'ailleurs une enquête de Bernard Rougier sur le sujet, qui est un élève de Keppel, qui a fait une enquête
spécialiste de Moyen-Orient,
qui a fait une enquête sur ce sujet. Et oui, on a le droit d'être inquiet de ça. Enfin, je vois pas de contradiction entre
non,
les
mais
termes,
c'était deux éléments, côté un peu les échos d'un côté, le côté valeur actuelle de l'autre, quoi.
Valeur actuelle, non, je dirais pas ça, parce que je vois bien la...
Qu'est-ce qui vous distingue de valeur actuelle, par exemple, sur ce thème?
Bah, précisément, on a un journal libéral, mais on est un journal conservateur. Valeur actuelle est un journal conservateur, très conservateur, vous mettez l'adjectif qui vous convient, etc. Nous, on est un journal qui est libéral. Mais en même temps, être libéral, ça pose pas de problème de considérer, quand on est libéral, que l'extrémisme religieux, c'est un problème. Au contraire, me semble-t-il.
Quels sont les concurrents aujourd'hui pour vous?
Et sur ce point-là, on se sent extrêmement proche, en revanche, de la philosophie de Charlie, de celle de Rice, par exemple, ou de Charb, le regretté Charb, qui a été assassiné il y a 5 ans.
D'où aussi la présence de Kamel Daoud, par exemple, parmi vos chroniqueurs réguliers.
Oui, qui a la dernière page du journal, qui est très importante. Et Kamel Daoud est aujourd'hui, à mon avis, une des grandes voix, non seulement de la littérature, mais aussi du combat pour la liberté.
Vous avez vu que la droite française s'éprend ces derniers jours, en tout cas c'est ce que dit Le Monde ce week-end dans un long article, de Boris Johnson, à la fois conservateur, populaire et transgressif, anti-austéritaire, plus 6% d'augmentation du SMIC et en même temps très ferme sur l'immigration, ça vous parle?
Johnson, c'est un personnage très étrange et très contradictoire, qui a été très anti-européen, qui a fait sa carrière là-dessus, y compris dans la presse d'ailleurs quand il était journaliste.
Ouais.
Qui malgré tout est quelqu'un qui connaît très très bien l'Europe, qui connaît très bien la France, qui est un latiniste, qui s'intéresse beaucoup à la culture européenne. Et finalement, c'est un Européen culturel qui a sorti le Royaume-Uni de l'Union Européenne. C'est très étrange.
Alors, mais après, là aussi, il y a un ancrage. Hein, c'est le fameux sommaire de l'intellectuel David Goodhart, anglais. Je suis de quelque part, et je ne suis pas Européen, je ne suis pas cosmopolite, je ne suis pas bobo. Je suis ancré dans ma ville, dans mon village.
En cela, Boris Johnson suit les préceptes de Churchill, qu'il admire beaucoup et c'est auquel il a consacré d'ailleurs un livre qui s'appelle Winston il y a quelques années, un livre qui parlait peut-être plus de lui que de Churchill.
À certains
égards. Mais Churchill, dans son fameux discours de Stuttgart en 1946, avait prôné les États-Unis d'Europe. Mais il a bien précisé que pour lui, il ne voyait pas vraiment le Royaume-Uni là-dedans ou pas complètement, un petit peu à part. Ce qu'il faut espérer pour nous Européens, c'est que le Royaume-Uni ne s'éloigne pas trop non plus.
Mais c'est aussi reprendre le contrôle. C'est très important, ça, dans ce débat.
C'était le grand argument aussi des Brexiteurs, hein, c'était reprendre le contrôle, ce qui n'est pas du tout évident, parce que s'ils veulent avoir un accès au marché européen, il va falloir qu'ils se soumettent à un certain nombre de règles. Et donc ça, c'est une immense arnaque des Brexiteurs qui a bien fonctionné, mais la réalité, c'est que je pense qu'ils auront plutôt moins de contrôle.
Terminons cette introduction un peu par vous encore, par où j'ai commencé. Vous avez un style, vous-même, à la fois dans l'écriture, mais aussi comme personne, assez, comment dire, décontracté, d'ailleurs peut-être faussement décontracté, assez relâché, un dilettantisme un peu à la Patrick Besson en apparence et en même temps l'intellectualisme du postillon, pour prendre le titre du supplément intellectuel de la fin du Point.
Écoutez, je crois que je suis ni réellement relâché, ni réellement un intellectuel. Mon travail, c'est de faire travailler les intellectuels, de les faire venir au point. Et nous avons cette noria, hein, des intellectuels qui sont autour du point, et qui sont, par exemple, Kamel Daoud, Gaspard Koenig, Aurélie Jean, Peggy Sass, des gens qui sont très très différents les uns des autres, et qui sont très importants pour le journal Mon Travail. Et c'est d'ailleurs l'œuvre en grande partie au point de Sébastien Le Foll, qui est le directeur de la rédaction, qui est l'architecte, hein, de cette construction des idées au point, et de cette stratégie des idées, du débat intellectuel au point. C'est très important. Est-ce que je suis vraiment relâché? Peut-être inconscient, mais en tout cas, j'essaie d'être un peu sérieux dans mon travail. Je ne suis pas sûr d'y arriver à chaque fois, mais j'essaye.
Et la russophilie, c'est un personnage que vous campez ou c'est juste le souvenir de vos, paraît-il, 3500, si on en croit Wikipédia, je ne sais pas si c'est sûr, kilomètres à vélo dans les restes de l'Empire soviétique en 2000.
Vous voyez que Wikipédia raconte toujours n'importe voilà, quoi, très souvent n'importe quoi.
Non, il n'y avait pas Russie, 3500.
La Russie, c'est la littérature russe, comme beaucoup de gens, hein, c'est Gogol, Dostoïevski, Gontcharov,
Solzhenitsyn,
évidemment, Zamyatin, que j'admire énormément, notamment sur la question de la liberté.
Mais le voyage quand même aussi,
beaucoup de voyages
à vélo.
Effectivement, quand j'étais étudiant, j'ai pris une année sabbatique, j'étais à Sciences Po, et Richard Descoings, à l'époque, m'a autorisé à prendre une année sabbatique pour faire le tour de l'Asie à vélo. Je lui en serais toujours reconnaissant.
Il y a un petit côté un peu Sylvain Tesson chez vous pour ça.
C'est un ami que j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'admire beaucoup Sylvain Tesson, qui avait voyagé déjà
partout,
à l'époque,
partout,
et écrit déjà à l'époque, et effectivement qui a inspiré, je pense, toute une génération
l'écrivain de voyageurs.
Moi, je ne définis pas comme un écrivain voyageur, parce que je ne suis pas un écrivain, mais en tout cas comme de voyageur.
En tout cas, best-seller inattendu ces derniers mois, et prix Renaudot pour son livre La Panthère des Neiges, qu'on recommande, lui aussi voyage à vélo, hein, n'est-ce pas ? Soft Power, dans un instant, la suite de cet entretien avec Étienne Jernel, directeur du Point. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power pour suivre l'actualité des industries créatives, du numérique et des médias, ainsi que de la politique culturelle chaque semaine et toute l'année 2020. Et ce podcast est disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Précisément 19h sur France Culture. Étienne Jernel, directeur du Point, est notre invité ce soir avec Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, Zoé Sfez de France Culture. Une question d'Emmanuel Paquette.
Oui, alors vous n'allez pas y couper, mais forcément je vais vous parler de Gabriel Matzneff, puisqu'il y a eu encore des révélations ces derniers jours, notamment un papier dans L'Opinion, dans lequel en fait le dirigeant
du Centre national du Livre,
donc Vincent Monadé, a dit qu'il avait demandé au ministre de la Culture de suspendre l'allocation qui lui a été faite depuis 2002. Donc, certains ont découvert, notamment moi, qu'il pouvait y avoir
des allocations. Il y
en avait 14.
15. Ouais. 15, moins lui, effectivement. Voilà. Si d'aventure il est suspendu, ça fera 14. Donc, ce sont des auteurs qui ont entre 72 à 96 ans, qui peuvent effectivement toucher jusqu'à 8000 euros par an pour être, en fait, puisqu'ils ont un niveau de vie qui est relativement faible et donc toucher un peu d'argent de la part du CNL.
Très faible.
Ouais. Très, très faible, voilà. Donc, je sais aussi qu'au point. Cette affaire-là a aussi un peu ébranlé la rédaction.
De savoir est-ce qu'il fallait qu'il est collaborateur.
Il faut quand même rappeler, parce que là, que Gabriel Matzneff donc s'occupe de, alors, de quoi? De la religion. On dit de la religion et de la spiritualité, mais j'ai regardé son dernier papier, ses deux derniers papiers, c'est un compte-rendu de théâtre, et c'est une espèce d'édito sur, effectivement, la question de l'antisémitisme.
C'était à propos de Yann Moix. Alors, techniquement, Gabriel Matzneff ne fait plus de chronique au point, parce qu'il nous a écrit début décembre, le 8 décembre pour être précis, pour dire qu'il arrêtait.
Voilà. Ah, ça tombe bien.
Et c'est lui qui l'a décidé. Il savait probablement que le livre de Vanessa Springora allait sortir. Mmh. Et donc, il nous a envoyé ce courrier. Après, on m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas viré. Je n'ai pas répondu à cette question. Je ne l'ai pas dit pour plusieurs raisons. D'abord, parce que concrètement, on ne vire pas quelqu'un qui s'en va. Deuxièmement, c'était un chroniqueur irrégulier qui devait au départ traiter des religions, qui a débordé un peu du sujet. Et puis, je n'avais pas tellement envie de me joindre à ce que Vanessa Springora a appelé dans Le Parisien une chasse à l'homme. C'est elle qui le dit, hein. C'est pas moi dans cette affaire. Et donc, on ne l'a pas dit. Mais c'est vrai que, du coup, sa chronique est arrêtée.
Mais alors, vous pensez quoi
aujourd'hui
de tout ça, puisque vous êtes, là, en l'occurrence, un peu jugé parti, puisque vous l'embauchez au moins à minima?
L'embaucher, je ne sais pas. Ce que j'en pense, c'est qu'on peut à la fois être horrifié par certains écrits de Matzneff et peut-être ses actes, hein, même si la justice ne sait pas encore penché sur la question.
Le parquet a ouvert vendredi une enquête pour viol sur mineur de 15 ans.
Tout en sachant que cela est probablement prescrit et c'est une forme d'appel en disant à de nouveaux témoignages. Que le livre de Vanessa Springora, qui est un livre fin, intelligent, glaçant par certains aspects, et assez subtil. Je ne l'ai pas encore terminé, je suis vers la fin, là, je le terminerai ce soir. Mais en tout cas, c'est un livre très subtil et très intéressant. Et évidemment, il change beaucoup de choses, parce que c'est la première fois qu'il y a un témoignage qui n'est pas le sien à lui. Je pense néanmoins que l'on peut avoir le temps de la réflexion et se payer, comme disait Claude Imbert, le luxe du doute méthodique quant à la question de savoir si il peut être publié ou pas. Ça, c'est une autre question. Alors, dans le débat...
Vous parlez de Gabriel Mazenaf, vous ne parlez pas du livre de Vanessa Springora ?
Oui, non, je parle de Mazenaf.
Oui, d'accord.
Pardon, bien sûr que... d'ailleurs, il est publié, le livre de Vanessa Springora. La question de savoir est-ce qu'il peut être publié ou pas, et ça, à mon sens, c'est une autre question, et qui mérite un débat un peu plus long que celui-là. Évidemment, dans le contexte actuel, c'est très très difficile de faire des distinctions, d'avoir une réflexion, etc., parce qu'on voit bien qu'il y a une émotion qui est forte. Il faut relire, hein, vous savez, la psychologie des foules de Gustave Le Bon sur le sujet. Aujourd'hui, on a des foules qui sont numériques, mais finalement, c'est pas tellement différent.
Mais est-ce que c'était un grand auteur pour vous ?
Je sais pas.
Parce qu'on lit une chronique, notamment de Jérôme Béglé, qui en fait un éloge dithyrambique. Ouais, le compare à Proust, un styliste hors pair, un ciseleur de mots. L'auteur ne voit que le beau et le digne d'intérêt. C'est une chronique d'ailleurs assez récente, pour le coup. À propos d'un livre paru en 2019,
Écoutez, chacun son avis là-dessus. Moi, je n'ai pas beaucoup lu Mazenef, j'ai lu Séraphin.
Pas grand monde d'ailleurs, puisque ces livres dépassaient rarement les 3-4 000 exemplaires.
Je n'ai lu que Séraphin, c'est la fin, qui est paru en 2013, me semble-t-il, hein, dans ces eaux-là. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Je suis pas un immense fan.
Et il faut qu'il ait une bourse du CNL et d'ailleurs aussi un appartement de la ville de Paris. On a appris.
J'allais dire ça, c'est une autre.
Ouais, ça, c'est une question.
C'est un débat.
Si on trouve bien ou pas. Il peut y avoir plusieurs débats. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on a le droit d'avoir plusieurs débats et tout ne peut pas forcément être emporté par la foule en même temps.
Mais en même temps, alors, c'est parce qu'on va rentrer dans le cœur du sujet, la question de l'éditorial du Point. Comment est-ce que vous comprenez aussi que Gabriel Mazenef ait été pris au Point depuis quand il était là, d'ailleurs?
2013. Il a fait une chronique régulière sur le site du Point depuis 2013.
Depuis 2013, ouais, c'est relativement récent.
Ouais.
Mais c'est cette idée, et d'ailleurs lui le défend, donc en fait son avant-dernier papier, c'est un papier sur cette sénatrice italienne de 94 ans qui fait l'objet d'une campagne horrible médiatique antisémite, puisqu'elle est juive, et lui en fait retourne à la fin de sa chronique en disant « c'est vrai, condamnons ce lynchage médiatique comme on doit condamner le lynchage médiatique de réalisateurs comme Woody Allen, etc. » Donc il met dans le même sac que l'antisémitisme et le reste, mais est-ce que c'est aussi ce côté libéral dont vous parliez, irrespectueux, qui peut attirer une rédaction comme la vôtre?
Non, alors d'abord...
Il a été au Monde, il a été à Libération...
Mais je veux dire...
Là encore, si je puis me permettre, il faudrait faire une petite distinction. Il n'a pas fait au Point l'éloge de la pédophilie sur le site du Point, contrairement au Monde. Soyons clairs là-dessus. Donc nous n'avons pas, de ce côté-là, à nous reprocher.
Mais le Monde l'avait démissionné assez tôt dans les années 80.
Bien sûr. Enfin, il a fait l'éloge de la pédophilie dans le Monde. Alors, il n'était pas le seul. Hein. Vous avez dans les signataires, vous aviez Aragon, Simone de Beauvoir, c'est quand même surprenant, Sartre.
C'est une pétition un peu plus complexe, mais ne rentrons pas dans les détails. À l'époque, il y avait des majorités sexuelles différentes.
Oui. Enfin, l'histoire est à... Bon, admettons. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'il a fait au Point. Alors après, la question, c'est de savoir... Est-ce qu'il fallait le publier ou pas, pour parler d'autre chose que ce dont est accusé aujourd'hui? Eh ben, c'est une question qui se pose. Et peut-être que quelqu'un dans ce studio a une réponse toute faite et définitive sur ce sujet-là. Moi, j'en ai pas. Et donc, humblement, je dis j'en ai pas.
Alors, autre sujet ce soir avec vous, Étienne Jernel, vous êtes directeur du Point. Question un peu économique concernant votre journal, Emmanuel Paquette.
Oui, alors comme tous les news magazines, on est tous pris, l'Express y compris, hein, d'ailleurs dans une crise de la presse et une crise des news en particulier. Il se trouve que maintenant, depuis 2017, la dernière année où vous avez publié vos comptes, vous faisiez état de 1,7 million de pertes. On a cru comprendre qu'en 2018 c'était un peu plus, c'était 3-4 millions, et en 2019 encore un peu plus, et qu'aujourd'hui vous devez mettre en place un plan d'économie pour essayer de redresser un peu le Point.
On parle de 9 millions d'économies pour 2020.
Un plan d'économie, ouais, de 8 à 9 millions.
Ça, mais non.
Non.
On vous le dira, vous allez recevoir la lettre de François Pinault cette semaine peut-être.
Vous n'avez qu'à l'appeler. Concrètement, on a cette année un chiffre d'affaires qui est en légère croissance, ce qui est bien, hein, dans la presse, c'est bien. avoir de la croissance? Est-ce qu'on gagne de l'argent? Non. Est-ce qu'on a de l'espoir de faire des bénéfices substantiels rapidement? Oui, parce que c'est fondamental. Pour moi, un journal indépendant est un journal qui gagne de l'argent. L'indépendance économique et l'indépendance éditoriale, c'est exactement le même sujet. Et ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Ça ne peut pas fonctionner. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. On s'en sort, je pense, relativement bien dans le paysage.
En abonnés papier, en abonnés numériques et en kiosque, écoutez, c'est quoi les chiffres à peu près?
Écoutez, on a 200 000 abonnés au global, dont...
175 000 papier...
À la louche, on en a 30 000 purs numériques, 90 000 mixtes et le reste qui n'utilise que le papier.
Que le papier.
On a vocation à vivre avec les deux.
Et en kiosque, on fait combien? Le point fait combien?
On doit être un peu plus de 40 000.
Selon les semaines, bien sûr, voilà, les couvertures.
Selon les semaines.
Mais justement, à quel point vous reposez sur ces fameuses unes légendaires du point dont on peut parler? Je me suis livré un exercice très sympathique. J'ai regardé sur un an toutes vos unes. Et c'est très intéressant de regarder ça parce que donc sur, a priori, 52 semaines, vous faites 52 numéros?
51.
51. Sur 51, il y en a 9 où il y a effectivement le mot islamisme, islam. Donc ça fait une sur 5. C'est pas mal. C'est même assez beaucoup. Plusieurs unes de type équilibre.
Un gros titre ou un petit titre secondaire?
Les deux. Souvent on a, je les ai presque notés. Face à l'islamisme,
sommes-nous
ce que pensent les musulmans de France, ça c'est intéressant. Mais il y a quand même le terme islamique dans la manchette. Je n'arrive même pas à me relire. Cette France qui fait peur aux islamistes, cette française qui fait peur aux islamistes,
c'est
Isabelle Razaoui. Le grand bouleversement, qui en fait n'est pas un titre qui parle de l'islam, mais en petit point, c'est 18% de prénoms arabes en plus, etc. Donc ça fait partie des éléments qui. Et il y a le terme islamisme aussi, je crois, dans la manchette. Il y a une grosse montée des thèmes écologiques.
Ça parlait des musulmans. Et non pas de l'islamisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Là, on parle de deux unes différentes, pardon, c'est moi.
La part des unes, c'est aussi ça la question.
C'est ça, la part des unes dans votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue sur la une?
Vous parliez, par exemple, dans le chiffre d'affaires du point, vous en avez une bonne moitié qui est constituée de l'abonnement. Je pense que la vente au numéro doit représenter à peu près 20%. Je vous donne des chiffres qui sont très approximatifs. Et si vous vous posez la question de l'élasticité des ventes... Je dirais entre une bonne et une mauvaise une, 30%. Alors après, parfois, ça monte très très haut quand il y a un très gros coup, ça peut arriver. Et puis, il y a quelques unes qui sont particulièrement fortes, comme les hôpitaux, de manière régulière.
Est-ce qu'il y a une tragédie
Par exemple, la grande interview de Macron a vendu 3-4 fois plus qu'un numéro normal. Ça arrive parfois, mais malheureusement, ça n'arrive pas tout à fait.
Est-ce qu'il y a une tragédie des hebdos?
Non, absolument pas. D'abord... je voudrais revenir sur le terme hebdo. Nous ne sommes pas que des hebdos, nous sommes un journal.
D'ailleurs, et aussi des quotidiens, notamment sur le web.
Oui, on est aussi des quotidiens, on fait aussi de l'actualité en continu, on fait aussi des podcasts, on fait aussi de la vidéo, et à ce titre, nous sommes aussi concurrents de France Culture, de France Inter, de TF1,
d'RTL. C'est quoi vos concurrents d'ailleurs? Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure.
Les grands concurrents pour nous, dans le domaine qui est en croissance dans le monde de la presse, et c'est bien qu'il y en ait un déjà qui soit en croissance, qui est l'abonnement numérique, c'est Le Monde et Le Figaro. De toute évidence, ce sont
L'Obs, c'est l'Express, et
ce sont aussi des concurrents. Et moi, je souhaite d'ailleurs qu'ils réussissent. L'Express aura une nouvelle formule bientôt.
La semaine prochaine.
Et je m'en réjouis. Je leur souhaite.
Mais vous n'êtes pas pour les nouvelles formules, vous aussi?
Non, au point, c'est interdit.
Parce que en fait, votre dernière maquette, c'est 98, non? C'est ça,
c'est
le quel format carré?
C'est bouger tout le temps, c'est ça l'idée?
Il faut évoluer tout le temps pour ne pas faire de révolution.
C'est situationniste, ça, finalement, encore.
On doit changer. Donc, par exemple, le postillon que vous évoquiez tout à l'heure, qui est cette rubrique de débat d'idées à la fin du journal, et qui est une déclinaison numérique d'ailleurs.
Très bien,
On l'a fait, on n'a pas fait une nouvelle formule. Quand on a lancé Phébé, qui est notre veille d'idées internationale.
Avec Laetitia Strante Bonnard, mais ça marche pas très bien.
Mais si, ça marche très bien. On a changé totalement. On a pivoté, vous savez, comme on dit dans l'économie numérique. On a pivoté. C'est-à-dire que c'était au départ une lettre qui était horriblement chère. D'ailleurs, ça coûtait, je sais plus combien, près de 1000 euros par an.
Et comme ça n'a pas marché, vous avez pivoté.
Et en fait, on en a fait une rubrique du journal. Parce qu'on se disait, mais ça, c'est un truc qui va intéresser des décideurs, comme on dit, des dirigeants qui veulent comprendre comment le monde évolue. Puis en fait, on s'est aperçu que ça intéressait tout le monde. Et aujourd'hui, c'est une rubrique qui est très contributrice en abonnement numérique. C'est une des premières. Ce qui est la preuve, d'ailleurs, que les lecteurs peuvent s'intéresser à du contenu très haut de gamme, très exigeant, puisque c'est issu de la recherche en sciences humaines, beaucoup anglo-saxonne, certes, mais française aussi, et on essaie aujourd'hui...
Oui, c'est un panorama d'idées internationales, c'est ça?
Oui, c'est de la vieille idée, c'est d'avoir une idée d'avance, précisément.
Emmanuel Paquette.
Alors, vous dites qu'il faut se transformer régulièrement. Il se trouve que, alors, je crois que vous avez un audit qui est toujours en cours, avec Beric Point, notamment, ou qui est peut-être terminé, mais sur la stratégie à mettre en place pour essayer de redresser le point dans les années qui viennent.
Non, en fait, on les a utilisés pour faire avancer, on va dire, dans ce qu'on appelle la transformation numérique. Alors c'est un peu aride aussi hein, comme sujet. Vous savez, je peux vous parler de flux de copie, de CMS.
Qui va faire quoi ?
Content Management.
Il y a un côté
system.
Entrepreneur chez vous également. C'est ça qui est fascinant.
Non, mais écoutez, c'est une entreprise.
À la fois du flair,
sérieux,
c'est une entreprise. Le flair éditorial et l'entrepreneur à la fois.
Et je crois qu'on peut pas distinguer les deux. Et vous savez quoi ? Ça fait partie de l'ADN du Point. Le Point a été créé par Claude Imbert, qui est un journaliste, qui a passé sa carrière comme journaliste et qui n'était pas d'ailleurs, il n'a jamais voulu être le PDG du journal. Mais néanmoins, c'était lui l'entrepreneur, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a poussé cette entreprise, ce journal, et encore une fois, nous sommes les deux. Et
avec puis, des modèles plutôt anglo-saxons à l'époque, non ?
Oui, évidemment.
Week, le modèle, time, ouais.
Le modèle, on va dire les choses, c'était l'Express, puisqu'il était le directeur de la rédaction de l'Express. Et après un mini détour par match, d'ailleurs, à l'époque, il a créé le Point avec les sept autres, qu'on appelait les sept mercenaires. Pourquoi ? Parce que Servan Schreiber, à l'époque, qui était propriétaire de l'Express, s'engageait en politique, et que Claude et les autres ont dit, mais nous, on ne veut pas travailler pour un patron qui, par ailleurs, qui fait de la politique, même si on le trouve plutôt sympathique.
Vous étiez directeur de la publication du Point, mais c'est désormais Renaud Grand-Clément. C'est au fond un triumvirat qui dirige le Point. Oui. Vous-même, Renaud Grand-Clément et François Claverie, vice-président ?
Oui, alors en fait, Le Point est un journal qui est dirigé par un directeur et qui a un alter ego qui est PDG. Claude a toujours fait comme ça, il n'a jamais voulu être PDG à part pendant une courte période. François-Olivier Gisbert, pareil, il était directeur du Point, il est devenu, parce que les circonstances l'exigeaient, PDG pendant quelques années, et puis il s'est précipité de redonner la présidence à quelqu'un d'autre. Et je suis le directeur du Point depuis 2014, hein, et en 2017, un peu par accident.
Parce que
j'ai été obligé de reprendre le job de PDG que j'ai rendu avec une
donc
joie
ça va,
non
vous, vous nous rassurez
il y a quelques mois.
Parce que souvent on reçoit les gens, ils sont virés dans la semaine. Donc on est content
en tout cas,
que vous soyez
pas. On ne sait jamais. Et donc il y a Renaud Grand-Clément qui est notre PDG et François Claverie qui est notre vice-président qui s'occupe plus précisément de la conduite des affaires du journal et c'est très bien comme ça.
Alors sur les modèles économiques de la presse, pour continuer avec Emmanuel Paquette d'ailleurs, c'est quoi le modèle ? Il y a d'autres modèles qui apparaissent. Mediapart a le côté fonds de dotation, un peu Julia Cagé que vous aimez beaucoup. Le modèle Le Guardian, là c'est pour le coup gratuit, site web, politique de dons avec en l'occurrence 1,35 milliard je crois de pages vues chaque mois, comme quoi c'est un modèle qui marche. Puis il y a aussi le modèle Ville de Paris où on met tout le monde dans une maison des médias libres, l'immeuble de Barbès, potentiellement, vous aurez Mediapart, vos grands amis, Esprit, Arrêt sur Image, Alter Économique, les jours politistes ou les journaux de droite, hein, c'est bien connu, vont être ensemble. C'est quoi le modèle que vous aimez ?
Écoutez, le modèle, c'est le modèle indépendant, donc c'est un modèle dans lequel on gagne de l'argent et on gagne de l'argent principalement grâce à ce qu'on... Bon, je vais faire un anglicisme, c'est atroce, mais vu le nom de cette émission, je peux me le permettre. Grâce au B2C, hein, grâce aux lecteurs.
Et les consommateurs.
Aujourd'hui, les deux tiers... Les deux tiers des revenus du Point proviennent des lecteurs. Nous avons aussi de la publicité, des partenariats dans les événements, etc. Et c'est très bien. Et je pense que ce modèle, qui est un modèle que nous avions dans le papier, nous le transposons dans le monde du numérique. D'ailleurs, ça marche assez bien parce qu'on va se retrouver très rapidement avec à peu près la même proportion dans le monde du numérique. Et je crois que l'indépendance, pour nous, consiste à avoir des revenus qui proviennent majoritairement de nos lecteurs.
Donc le modèle Mediapart ou Guardian, alors, ça vous satisfait
alors,
pas ?
Alors la question du don, écoutez... J'ai pas pensé, on n'a pas vraiment pensé jusqu'à présent. Est-ce qu'il faut demander des dons ? J'en sais rien. Dans tous les cas, je pense qu'on doit gagner de l'argent par nous-mêmes et faire notre propre.
Et la dotation, les fondations, l'idée de Mediapart.
Alors, mais ça, c'est autre chose parce que ça, c'est du comment dire ?
Ça, c'est des idées de Julia Cagé d'ailleurs.
C'est la structure de l'actionnariat et ça, c'est encore autre chose. Encore une fois, moi, je pense que l'actionnariat et la nature de l'actionnariat est relativement mineure dans la question de l'indépendance des journaux. Ce qui compte, c'est le compte de résultats. La question, c'est combien est-ce qu'on gagne d'argent ou combien on en perd ? C'est ça le vrai sujet. Le sujet de l'indépendance, il est lié à cela.
Zoé ?
Bon, alors moi, je suis obligée de garder mon rôle de bad cop, mais il y a eu un fameux sujet, vous en êtes défendu en 2017, on vous aurait proposé une enquête liée au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye en 2007, que vous vous seriez engagé à publier, puis finalement, vous n'avez pas publié. Ça, c'est des choix éditoriaux, ça n'a rien à voir avec l'actionnariat. On se doute bien que le groupe Pinault est plus ou moins pas tout à fait lié à ça. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors d'abord, je peux vous dire qu'il n'est pas lié à Sarkozy.
Oui.
Mais il est quand même lié au ça, Point.
C'est pas un secret, il l'a dit publiquement.
François-Henri Pinault est quand même lié au Point. Oui.
Non, mais François-Henri Pinault est lié au Point. Et
c'est
lui et son père, François, sont les propriétaires du journal. Mais si vous posez la question sur cette enquête-là, qui est sur ce sujet-là d'ailleurs, parce que ce n'était pas une enquête qui concerne Sarkozy, il n'y a pas de lien entre Pinault et le Point. Donc ça n'avait pas de sens. Tout ceci est un hoax qui avait été lancé par Mediapart pour assurer la promotion du livre de Fabrice Arfi et de l'autre dont j'ai oublié le nom, Karl Laske, je crois.
On s'aime beaucoup entre Mediapart et Le Point.
Pourquoi vous détestez autant?
Non, je déteste pas. Simplement, ils ont raconté n'importe quoi. Ils n'hésitent pas. Ils ont une relation avec la vérité qui, disons, est assez lâche. Mais qu'importe, d'une certaine manière, en l'occurrence, ils ont raconté n'importe quoi. Et d'ailleurs, cette interview et ce sujet est passé dans l'Express quelques semaines plus tard, et sans que ça ait fait un bruit particulier, comme quoi c'était pas explosif et dangereux. Simplement, ce qui s'est passé dans cette affaire, parce que je réponds en tant qu'affaire, c'est qu'il y avait deux pigistes qui sont venus me voir, et puis j'ai appris à la fin qu'il y en avait un troisième, et que le troisième, il faisait du conseil, il avait une boîte de conseil. Je savais pas pour qui il travaillait, je savais donc pas par qui il était payé, ça me proposait un léger problème d'éthique de publier ça. Accessoirement, je n'aime pas les surprises en ce qui concerne les auteurs d'enquêtes ou de papiers sur des sujets sensibles, surtout quand je les connaissais pas avant, et donc j'ai dit, vous êtes gentil, mais je ne vous connais pas, le troisième, je sais pas qui c'est, je l'ai pas vu, je ne publie pas, punto.
Emmanuel Paquette.
Alors juste, visiblement, les temps sont durs, encore une fois, dans tous les news. Et chez vous, ce qui est un fait assez rare, il y a eu quand même pas mal de départs ces derniers temps.
Beaucoup d'arrivées.
Ça dépend de quel côté. Il y a Aurélie Dupont qui part justement à l'Express.
Laureline Dupont est partie à l'Express.
Aurélie Dupont, c'est la danseuse, c'est merveilleux. C'est génial.
Une autre de vos journalistes est partie pour Paris Match. Ouais. Il y a eu quelqu'un qui est parti aussi il y a quelques temps déjà pour Valeurs Actuelles.
Mais c'est la vie normale des journaux.
Non, ça, plus que d'habitude là pour le coup, parce que normalement Le Point est plutôt stable dans ses effectifs. Là, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Et c'est vrai qu'en interne, je pense avec effectivement les pertes qu'il y a et le plan d'économie en cours.
Non, mais alors attendez.
Il y a aussi une situation un peu tendue.
D'abord, on investit beaucoup, on embauche énormément. Ça se voit peut-être moins, mais Géraldine Vossner, qui nous a rejoint pour parler de l'écologie, de la science et de la politique, puisque ce sont des...
Je voulais dire sur les unes, vous faites beaucoup de unes sur l'écologie cette année et sur la 5G. En fait, on a l'impression que le grand perdant, c'est la politique dans vos unes. Il y a moins d'une politique qu'auparavant.
C'est tout à fait juste. D'abord, alors ça reviendra peut-être, mais je crois qu'il y a une perte d'appétit pour la politique.
Puis on n'est pas en année présidentielle.
Vous avez fait une sur les graines.
Oui, mais absolument.
Et puis le vin aussi, n'oublions pas.
L'écologie, les sciences prennent énormément de part dans les préoccupations des gens, et c'est notre métier d'apporter ce qu'on peut, notre métier de journaliste dans ce secteur-là. Et puis, c'est vrai que la politique aujourd'hui, dans le contexte macroniste jupitérien, après, une fois qu'on a terminé avec Macron, et on ne sait pas grand-chose d'ailleurs de sa vie et de ce qu'il fait, parce que c'est très secret, ça va assez vite. Et je pense que ça, c'est une évolution de fond aussi. On traite plus des sciences, on traite plus de l'environnement, on traite plus de l'écologie. Et je pense que ça, c'est de l'éducation également. C'est une vraie question de fond. Et pour répondre à votre question, mais attendez, Le Point, ça va. On embauche énormément.
Je suis un peu inquiet.
Non, mais ne soyez pas inquiet. Honnêtement, dans le secteur, si vous regardez, on est dans ceux qui se portent le mieux. On a une croissance du chiffre d'affaires, on a une croissance des abonnements numériques, on embauche pas mal de journalistes, on a dû embaucher une petite dizaine cette année, et très franchement, ça va bien, hein. Ça va bien, faut pas vous inquiéter pour nous.
Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cette émission, à propos des écoles du journalisme, qu'elles sont toutes plénilisées, c'est pour revenir à la polémique avec Plenel.
Bah, moi,
vous craignez les évolutions du monde du journalistique.
J'ai toujours une question sur les écoles de journalisme. Alors, ça me vaut souvent des ennemis quand je dis ça, mais je pense que c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le tas. Je pense que c'est bien d'avoir des gens qui viennent d'horizons divers,
qui ont fait du vélo à travers les anciennes républiques.
Il y a des médecins chez nous, il y a des gens qui ont fait des études d'histoire, il y a beaucoup de gens qui parlent des langues étrangères. Alors, il y a beaucoup de binationaux au point. Pourquoi? Parce que j'accorde une grande importance, et Sébastien Le Foll aussi, à la connaissance de langues étrangères. Donc non, les écoles de journalistes, pour moi, ça me paraît pas indispensable. Je prône pas leur dissolution comme le CSA, on va dire les choses. Mais je suis pas un...
Et puis surtout, vous avez des journalistes, justement, qui étaient partis au CSA.
Après.
Pensons à Sylvie Pierre-Brossolette, ou Catherine Pégard, partie à Versailles,
absolument.
Comme quoi. Ou même le ministre de l'Éducation nationale actuel.
Après, c'est vrai que.
Ça mène à tout de travailler au point.
C'est un constat, les gens n'aiment pas quand je disais, mais enfin, c'est une réalité. C'est que la sociologie politique de ce métier fait que, la très grande majorité des journalistes sont, on va dire, pour l'aile droite ameniste et pour l'aile gauche mélenchoniste. Et c'est une réalité. Pourquoi ne pas le dire? Et alors, c'est pas
et
un
vous,
mal
vous êtes
non plus, mais c'est
plutôt entre Christophe Guillou, vous savez, la France périphérique, et Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux, le Goncourt 2018, qui est,
c'était Gulli, la France périphérique.
Gulli, qui paraît-il le livre de chevet du macronisme, selon Le Monde de
ouais,
ce mardi.
Oui, pour la Macronie, oui. Ouais. Je sais pas mal le livre de Mathieu.
Non,
enfin,
je suis pas sûr, il est bien, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le livre de la Macronie.
Ah, c'est une page d'analyse dans Le Monde de cette semaine.
Mais en même temps, le signe de la Macronie, c'est Les Misérables de la Tilly, donc on est un peu perdu en ce moment.
À définir la Macronie en dehors de Macron.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors récemment, vous avez été attaqué en justice par Erdogan pour une couve que vous aviez fait sur Erdogan, le dictateur. Mmh. Vous en êtes où aujourd'hui? Et si c'était à refaire, vous le referiez?
Bah, évidemment qu'on le refait, c'est la vérité.
Il y a eu plus que ça, vous avez eu des attaques de kiosques. Oui,
notamment au Panté, près d'Avignon.
Ça, c'est une précédente, c'était le dictateur. Là, on a fait l'éradicateur il y a quelques semaines. Et le dictateur, effectivement, il y avait des kiosques qui ont été attaqués, des affiches arrachées, des kiosques menacés de mort, des journalistes du Point menacés de mort, et encore précédemment des attaques informatiques. Et là, c'est différent, c'est que l'avocat d'Erdogan a déposé une plainte à Ankara pour offense au chef de l'État, ce qui est en Turquie est passible de 4 ans et 8 mois de prison.
Alors, donc vous n'allez pas aller trop en vacances, ni en vélo en Turquie prochainement?
pas tout de suite. Et d'ailleurs, la question est un peu plus large que ça, puisque on ne sait jamais, en vertu d'accords d'extradition, il se pourrait que Romain Guber, qui est le chef du service étranger du Point, et MAPOM, soyons un jour inquiétés dans un pays tiers. Donc ça, c'est quand même inquiétant. C'est une petite nouveauté, si vous voulez, dans les tentatives de nuire à la liberté d'expression, puisque ça se produisait pas avant, en tout cas pas de manière aussi claire que ça. Et c'est un petit peu inquiétant, oui. Et qu'est-ce qu'on disait? D'ailleurs, on a dit une chose qui est extrêmement simple, hein, à partir d'un reportage de Guillaume Perrier sur place, qui était absolument formidable. Mais son reportage démontrait très clairement le nettoyage ethnique à l'encontre des Kurdes en Syrie. Et voilà, il fallait le dire, évidemment, on le dira, et on le redira, et on le redira encore. Et on n'ira pas en week-end à Istanbul, qu'est-ce que je vous dis?
Étienne Jernel est le directeur du Point et l'invité de Soft Power sur France Culture en direct ce soir. J'ai mesuré, j'ai pris mon centimètre, et j'ai découvert, alors vraiment, aux surprises, que le logo du Point diminuait chaque année un petit peu plus. Il a rapetissé. Il aurait perdu 1,5 cm. Vous avez honte?
On a vraiment fait des
Vous avez
de
honte
comptes.
De ce logo du Point?
Non, alors vous savez, vous êtes un très fin observateur. C'est quelque chose qu'on... Voilà, c'est typique, on ne fait pas de nouvelles formules. On change un tout petit peu les choses pour aérer. On modifie doucement la maquette. On a aussi diminué le rebord rouge. Très, très, très doucement. Voilà, on évolue tout le temps, doucement. Et au bout de 3 semaines, les gens ont le sentiment que ça a toujours été ainsi. C'est comme ça qu'on procède. Et c'est pour ça que le mot nouvelle formule est interdit au Point, absolument.
Zoé Sfez.
Peut-être une petite question pour revenir à la question de la presse magazine. Donc, on a vu que le terme hebdo, il ne vous plaît pas. On a parlé, vous dites que vos concurrents sont Le Monde et Le Figaro. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale de la presse magazine, au-delà de l'hebdo et de ce que vous faites, vous? Disons, la disparition de la Gardère et de Mondadori France, l'arrivée d'un acteur comme ReWorld. Mine de rien, vous êtes tous présents dans une petite maison qui est celle du kiosque. Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe en ce moment?
Alors, on est très très attentif. Alors, si vous parlez là du papier et des kiosques, on est des défenseurs des kiosquiers qui font un métier extraordinairement difficile, des marchands de journaux d'une manière générale, qui sont maltraités en général et qui étaient. Alors, heureusement, il y a une bonne réforme qui arrive, ça arrive une fois de temps en temps, qui est la loi Bichet, la réforme de la loi Bichet, qui va permettre d'alléger un petit peu les étals, puisque il ne sera obligé de distribuer que ce qu'on appelle la presse d'information générale et politique. Ça, c'est une très très bonne chose. Et alors, il y a des journaux qui disparaissent et c'est toujours d'une grande tristesse. Il y a des groupes comme ReWorld, on ne peut pas dire que ce soit un idéal pour nous de journalisme. Il y a globalement la question pour les journaux, elle est beaucoup plus large que ça, c'est comment sortir de l'étreinte des GAFAM, hein, qui eux sont vraiment les tueurs de la presse. Aujourd'hui.
Vous êtes partisan de la fameuse réforme du droit d'auteur et de la grande directive droit d'auteur qui doit être...
Les droits voisins. En français, droit voisin. J'ai pas un amour pour le droit voisin parce qu'en fait, ce seraient les droits d'auteur en fait qui seraient reversés à la presse, parce que toucher, comment dire, des revenus par un organisme collectif, etc., c'est toujours mieux de faire du chiffre d'affaires en direct. Néanmoins, la réaction de Google et de Facebook, qui en gros ont fait un bras d'honneur à l'Europe, à la France, en disant non, on ne l'appliquera pas, montre bien que ce sont des monopoles. C'est une attitude typique d'un monopole. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Commission européenne et l'autorité de la concurrence doivent montrer qu'elles servent à quelque chose.
Dernière question pour terminer cette émission, Emmanuel Paquette.
Oui, vous parliez des kiosques physiques que vous aimez beaucoup. En revanche, les kiosques numériques, vous les aimez beaucoup moins. Aujourd'hui, vous êtes un des rares titres à ne pas vouloir y aller. Est-ce que vous allez changer d'opinion là-dessus?
On n'est pas les seuls. Hein.
Non, il y a Le Monde aussi.
Le Monde aussi, et vous remarquerez que ce sont des titres dont les revenus proviennent majoritairement de leurs lecteurs, et donc qui ont moins intérêt, évidemment, qui ne cherchent pas à faire de la diffusion pour de la diffusion, pouvoir annoncer des chiffres à la publicité. Et deuxièmement, j'ai pas de détestation de principe, je préfère quand on a une relation directe avec nos lecteurs, et j'ai eu un combat assez violent, il faut dire, avec SFR Presse, parce que je considérais que tout cela n'était pas fair, notamment d'un point de vue fiscal. Maintenant, la question, elle est réglée, mais c'est vrai que je préfère quand on a un rapport direct avec nos lecteurs, qui peuvent nous dire ce qu'ils en pensent, nous engueuler le cas échéant, on adore ça, c'est formidable, et voilà, on est là pour être irrespectueux, et que nos lecteurs ne le soient aussi.
Donc toujours pas de kiosque numérique.
On en a un petit peu, mais pas beaucoup.
19h27, passé de pratiquement 30 secondes. On va en rester là pour ce soir. Notre invité ce soir était Étienne Gernel, directeur du Point. Pour terminer cette émission, quand même une question personnelle décisive qui va déterminer le succès ou l'échec de votre venue ce soir. En un mot, vous êtes prêts? Concentrez-vous.
Oh là là.
Demain, c'est l'Épiphanie, les rois mages qui viennent adorer le Christ. Je suis sûr que vous savez ça. Vous êtes plutôt galette ou gâteau des rois?
Mon Dieu.
Eh oui, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gâteau des rois?
La France profonde, vous voyez
Frédéric
que vous ne
Martel
la connaissez pas.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais avoir des problèmes, vous croyez, avec ça? Non, j'en ai aucune idée.
Alors on vous a acheté et on vous l'offre un gâteau des rois. Vous savez, c'est
on
le
dit un
sud
gâteau
de la
des rois.
Ah non, mais il y a la galette au nord, le gâteau au sud.
C'est le chef power du sud qui est en train de se jouer.
Ah d'accord, c'est comme le pain au chocolat et la chocolatine.
Vous auriez répondu gâteau, vous auriez gagné. Et galette, vous auriez perdu parce qu'il n'y en a qu'un de vrai. Et on va le manger ensemble, c'est le gâteau des rois, le seul, le vrai. Allez, bonne année à vous et bonne année.
Bonne année à vous tous.
Point.
Merci beaucoup.
Merci infiniment Étienne Gernel, directeur du Point, Emmanuel Paquette de l'Express, Ouest-Fest de France Culture. Vous pouvez vous abonner au podcast de France Culture et de Soft Power surtout sur notre site, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. La semaine prochaine dans Soft Power, nous consacrerons notre émission au Microfolie, le nouveau projet culturel d'Emmanuel Macron. Et je recevrai également Éric Scholl, le nouveau directeur de l'Express, qui lancera une nouvelle formule. Lui au moins, il aime les nouvelles formules, contrairement à vous je crois. Vous l'avez dit.
Mais c'est un ami, je l'aime beaucoup.
Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que demain, dans les matins de France Culture, il sera question de l'Iran face aux États-Unis. Et en seconde partie, de l'anniversaire de la mort d'Albert Camus. Donc demain matin sur France Culture. Voilà, en attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Et bonne fin de week-end. Et nous, on mange le gâteau des rois.
France Culture, l'esprit d'ouverture.